Le journal Jean-Michel Naga. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Une conférence de presse très attendue dans une heure à Washington. Donald Trump devrait confirmer la mort du leader du groupe État islamique. Selon plusieurs médias américains, Aboubakar al-Baghdadi a été tué lors d'une opération militaire. Nous faisons le point dans un court instant avec Valérie Crova. C'est donc confirmé, le corps retrouvé mercredi dans une forêt du Bas-Rhin est bien celui de Sophie Letan. Jean-Marc Grézer est soupçonné d'avoir assassiné cette jeune étudiante strasbourgeoise. La famille de Sophie Letan et leur avocat attendent désormais un procès. Notre droit de suite cette semaine, le reste à charge zéro, le remboursement intégral de certains soins auditifs, optiques et dentaires. Mais à quel prix pour nos mutuelles? Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avait promis qu'il n'y aurait pas de surcoût. Nous allons vérifier cela avec notre invité. Angleterre, Afrique du Sud, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les Springboks ont battu le Pays de Galles ce matin 19-16. Les Gallois, très déçus, vous allez l'entendre, nous irons à Cardiff dans ce journal. Et puis nous irons au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre. 59 bateaux doivent s'élancer dans un petit quart d'heure direction Salvador de Bahia au Brésil.
France Inter.
Le chef du groupe État islamique a donc été tué dans le nord-ouest de la Syrie. C'est ce qu'affirment plusieurs médias américains. Aboubakar al-Baghdadi aurait été visé par une opération militaire pilotée par Washington, des commandos américains qui auraient été héliportés dans la région d'Idleb. Valérie Crova, dans l'attente de l'intervention de Donald Trump à 14h, quelles sont les informations dont on dispose à cette heure-ci?
La presse américaine fait état d'un raid mené la nuit dernière dans le nord-ouest de la Syrie. Des forces spéciales sont intervenues près du village de Barisha, dans la province d'Idlib. Et c'est au cours de ce raid qu'Aboubakar al-Baghdadi est mort. Selon les médias américains, il se serait suicidé en actionnant sa veste bourrée d'explosifs. Newsweek affirme que des membres de sa famille étaient présents. Deux femmes, deux épouses de Baghdadi seraient mortes. Elles se seraient également suicidées. Donald Trump aurait donné son feu vert à cette opération ultra secrète une semaine avant son déclenchement. Des tests ADN sont en cours pour confirmer officiellement qu'il s'agit bien du chef de l'État islamique, mais selon Newsweek, le département américain de la Défense se dit très confiant. Il faut savoir que ce religieux ultra-conservateur de 45 ans a été donné pour mort à de nombreuses reprises.
Alors, les Américains avaient offert une récompense de 25 millions de dollars pour sa capture. C'était l'homme le plus recherché au monde. Quel est son profil, son parcours, Valérie?
C'est d'abord un combattant. Au moment de l'invasion américaine en Irak de 2003, il est arrêté, puis détenu à la prison d'Abu Ghraib, où il va d'ailleurs côtoyer d'autres djihadistes. Il sera libéré faute de preuves. Et Baghdadi rejoint ensuite les rangs d'Al-Qaïda en Irak, qui va fusionner en 2006 avec d'autres groupes djihadistes pour former l'État islamique, dont il prendra la tête après la mort de son prédécesseur, tué dans une opération militaire. En juillet 2014, Baghdadi apparaît pour la première et dernière fois en public. C'est à la mosquée Al-Nouri de Mossoul où il proclame le califat qui, après avoir conquis de nombreux territoires, sera défait par la coalition internationale. Sa dernière apparition remonte à avril dernier dans une vidéo de propagande. On le voit assis, barbe longue et arme à portée de main. Il appelait ses partisans à poursuivre le combat.
Merci Valérie Crova pour ces détails. C'était bien le corps de Sophie Letan. Le corps découvert dans une forêt du Bas-Rhin en milieu de semaine était bien celui de l'étudiante strasbourgeoise. Les analyses ADN l'ont confirmé dès hier soir. L'étudiante de 20 ans était portée disparue depuis plus d'un an dans ce dossier. Un seul suspect, Jean-Marc Grézer, 59 ans. Il avait été arrêté quelques jours plus tard. Il est aujourd'hui mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Il continue de clamer son innocence, mais la découverte du corps ne fait que confirmer mais que c'est bien Jean-Marc Grézer qui l'a tué. C'est ce que dit l'avocat de la famille de Sophie Letan, maître Gérard Welzer.
Je n'avais pas de doute parce que le portable de M. Grézer avait borné dans ce site. On savait que c'était une jeune femme qui avait été retrouvée. J'avais personnellement pas de doute. Maintenant, en matière judiciaire, il faut toujours être très prudent. Simplement, aujourd'hui, le fait qu'on retrouve le cadavre de Sophie Letan démembré on va pouvoir faire des analyses techniques. On va laisser parler les experts. Vous savez, l'enquête, elle est quasiment terminée. L'instruction est terminée. On a la preuve que Sophie Le Tan, malgré les mensonges initiaux de Reiser, il faut se souvenir qu'au départ, M. Reiser disait qu'il ne connaissait pas cette femme. Et ce n'est que lorsqu'on lui a indiqué qu'il y avait l'ADN de Sophie Le Tan chez lui, qu'il a avoué qu'elle était venue. Au début, M. Reiser disait que c'est pas lui qui avait passé d'annonce dans le bon coin, qu'il ne l'avait jamais eu au téléphone. Donc, ça suffit.
Réaction de maître Gérard Velzer, l'avocat de la famille de Sophie Le Tan. Et à Cernay, le choc est immense dans ce village où habitent les parents de Sophie Le Tan, où elle a grandi. Sur place, le reportage de Gaëlle Joly.
Dans cette commune au pied des Vosges où Sophie Le Tan a grandi et où ses parents habitent toujours, beaucoup d'anonymes ont participé à des battues citoyennes pour retrouver le corps de la jeune fille. Alors forcément, la confirmation des tests ADN est un choc, mais aussi un soulagement pour Christian, habitant de Cernay.
J'étais peiné pour les parents et bon, je suis quand même content qu'ils l'ont trouvé pour faire le deuil pour la famille. Bon, j'espère que c'est le Reiser qui lui a donné rendez-vous. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail.
Oui, vous espérez qu'on trouve la vérité grâce à ça ?
Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est lui le meurtrier.
Pour l'instant, la famille de Sophie Le Tan ne souhaite pas s'exprimer. Mais un proche nous confiait à quel point ils étaient effondrés, déboussolés, sans voix, face à ces atrocités inimaginables. Une famille très discrète qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive et qui espère que les expertises attendues en début de semaine permettront de faire éclater la vérité. Les parents de Sophie Le Tan et leurs deux enfants devraient néanmoins prendre la parole lors d'une veillée le week-end prochain en hommage à cette jeune fille disparue tragiquement le jour de ses 20 ans. À Cernay, Alexandra Bergel, Gaëlle Joly, France Inter.
À la SNCF, le bras de fer continue entre la direction et les cheminots qui demandent la présence de contrôleurs à bord de tous les trains régionaux pour assister les conducteurs en matière de sécurité. Conséquence, vous le savez, de la collision il y a 10 jours dans les Ardennes. C'est ce qui les avait poussés à exercer leur droit de retrait au niveau national. Aujourd'hui, l'ouest du pays, les TGV Atlantiques sont touchés, la région PACA également, avec la suppression de nombreux TER et la galère une nouvelle fois pour les usagers.
Je suis venue, mon mari m'a emmenée en voiture pour éviter les histoires de TER parce que je venais de la Ciotat. Alors bien que le train soit annoncé comme circulant, je me méfie. Parce que soit il s'arrête, il est en retard, machin, et comme j'ai une correspondance, ben, mon mari m'a amenée en voiture.
C'était voilà. Plus sûr. Comment vous l'avez su, vous l'avez appris ce matin, la grève ?
Non, j'ai regardé hier soir en prévoyant, disons, le déplacement. Je me suis assurée parce que je sais qu'il y a souvent des problèmes ici. Donc voilà.
Parce que donc là, vous me dites, vous êtes partie de la Ciotat, vous allez où ?
Oui, à Paris.
D'accord, donc du coup ce matin, vous n'avez pas eu trop de stress grâce quelque part à votre mari ?
Non, parce que le train, je le prends à 12h49, donc ça va, quoi, on a eu le temps de se retourner. Quoi. Puis le dimanche, ça circule, donc c'est bon.
Réaction de Geneviève au micro de Quentin Pérez de Tudela de France Bleu Provence. Comme chaque dimanche, droit de suite, nous revenons sur une actualité. Cette semaine, c'est le reste à charge zéro qui a retenu notre attention. C'est la réforme 100% santé votée il y a un an. L'objectif, instaurer progressivement jusqu'en 2021 un remboursement intégral de certains soins auditifs, optiques et dentaires. Et cela à partir du 1er janvier 2020, dans 2 mois en fait. C'est Agnès Buzyn qui l'avait annoncé il y a un an. La ministre de la Santé insistait bien sur le fait que tous les acteurs devaient faire des efforts pour que cette réforme aboutisse.
Toute cette réforme, elle est quand même faite pour que les personnes les plus en difficulté puissent accéder à une offre de soins correcte. C'est vraiment pour eux qu'on a fait cette réforme. Donc si cette réforme aboutissait à leur faire payer le prix de la réforme, ils n'y seraient pas gagnants. Après, je ne peux pas être 100% sûr qu'aucun contrat ne va pas évoluer. Par contre, sur la globalité, les mutuelles, et les assureurs se sont engagés à ne pas répercuter le coût du reste à charge zéro. Donc on a demandé à chacun de faire des efforts, aux opticiens, aux producteurs, et donc chacun fait une partie du chemin pour permettre aux Français d'être équipés. Ensuite, l'assurance maladie prend les 3/4 du coût. Sur les 1 milliard d'économies pour les Français, 750 millions d'euros vont être directement payés par l'assurance maladie, la sécurité sociale. Et donc les mutuelles et les assureurs, 250 millions à mettre au regard des 37 milliards qui est leur budget, représente 0,14% de leur budget, vous comprenez bien que c'est absorbable par une meilleure gestion et par peut-être d'autres soins qui pourraient ne pas être aussi bien remboursés. Mais nous considérons que ces soins-là sont indispensables évidemment voilà. à la santé des Français. Voilà.
Alors, qu'en est-il un an après cette annonce et à la veille de la mise en place de cette réforme? Invité du Trésor, Fabien Sociaux, expert assurance chez meilleurtaux.com, le cabinet de courtiers experts en prêt et en assurance. Bonjour.
Bonjour à vous, monsieur Nagat. Comment allez-vous?
Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. D'après vos informations, cette réforme a-t-elle eu des répercussions sur les tarifs de nos mutuelles?
Elle en a déjà eu et elle en aura encore. La réforme a déjà accouché d'une augmentation en début d'année 2019. On a déjà noté une augmentation des tarifs sur les contrats mutuels en ce tout début d'année. Et cette année encore, on va assister à une augmentation des tarifs sur le début de l'année 2020.
De quel ordre?
Alors, au niveau de l'ordre, on parle de 4 à 5% sur l'ensemble des contrats. Au global, alors on a évidemment des contrats et des compagnies qui feront des augmentations un peu plus importantes et d'autres qui en feront un petit peu moins. Mais dans la globalité, on est effectivement sur une hausse de 4 à 5% sur les contrats mutuels.
Tout le monde est concerné, les tarifs ont augmenté pour qui? Pour les bénéficiaires de cette réforme, pour tout le monde ou pour simplement les retraités, les foyers plus modestes?
Alors, l'augmentation va bien être faite sur quasiment l'ensemble de la population, effectivement, que ce soit les jeunes actifs, les familles ou les seniors, tout le monde va avoir le droit à une augmentation de tarifs cette année.
Donc la promesse du gouvernement n'a pas été tenue?
La promesse du gouvernement n'est pas tenue, en tout cas en totalité, puisque effectivement il n'y a pas que le 100% santé qui impacte les augmentations de tarifs. Néanmoins, difficile de dire que celui-ci n'a aucun impact.
Il faut dire que la mesure a un prix, hein, 1 milliard d'euros. Alors 750 millions, les trois quarts financés par l'assurance maladie, et le quart restant, 250 millions pour les mutuelles, 250 millions, Agnès Buzyn le disait, ça représente 0,14% de leur budget. C'est trop lourd? C'est impossible à absorber pour les mutuelles?
Alors, c'est pas que c'est impossible à absorber pour les mutuelles, c'est surtout qu'on est dans une configuration où aujourd'hui les mutuelles ont déjà de la difficulté à faire du bénéfice sur les contrats. Les contrats collectifs sont, eux, généralement déficitaires et les contrats individuels sont, eux, bénéficiaires. Et au cumul, on est à peu près à l'équilibre. Donc, en ajoutant des charges supplémentaires, Agnès Buzyn parle de 250 millions d'euros, et on estime plutôt sur le marché entre 350 et 500 millions le réel impact, on ajoute une charge supplémentaire et donc il faut des recettes en face. Les recettes en face vont passer dans un premier temps, c'est certain, par cette augmentation tarifaire.
Un dernier mot, c'est important. Rapidement, si vous voulez bien, Agnès Buzyn promettait aussi un observatoire des prix. Est-ce qu'il a été mis en place? Est-ce qu'il est important?
Alors, c'est important qu'il y ait cet observatoire des prix et on va pouvoir le voir ici sur le début d'année 2020. Il devra se réunir tous les trimestres et il faudra effectivement qu'il soit tout à fait transparent sur ce qu'il prend en considération pour l'augmentation des prix et pour leur suivi. Et il faudra surtout qu'il soit transparent dans les informations qu'il nous délivre.
Merci beaucoup Fabien Sociaux. Je vous rappelle que vous êtes expert assurance chez meilleurtaux.com. En Argentine, c'est un scrutin important qui se déroule aujourd'hui, le premier tour de la présidentielle en pleine crise économique, la pire depuis 17 ans. Sur ces quatre dernières années, le bilan du président Macri est catastrophique. Les Argentins pourraient donc sanctionner le gouvernement à travers leur vote et redonner le pouvoir aux péronistes. C'est un dimanche d'élection également en Allemagne, dans la région de Thuringe. C'est une des plus petites régions au centre du pays, 2 millions d'habitants. Une élection régionale à suivre car l'extrême droite pourrait y faire un score record entre 20 et 24% selon les derniers sondages publiés cette semaine. Un quart des voix environ pour l'AFD. La liste d'extrême droite est conduite dans cette région de Thuringe par l'une des personnalités les plus radicales de l'AFD. Son portrait par notre correspondant permanent en Allemagne, Ludovic de Pétenu.
C'est un adepte de la provocation. Björn Höcke, un ancien professeur d'histoire fasciné par le Troisième Reich, reconverti dans la politique depuis 5 ans, n'hésite pas à reprendre des mots propres au régime nazi. Les yeux bleu-gris, des cheveux aux reflets argentés, l'homme dirige l'une des plus puissantes fédérations de l'AFD, celle de sa région rurale de Thuringe, et pilote Der Flügel, en allemand, l'aile, la frange la plus populiste, nationaliste et radicale du parti d'extrême droite. Il y a 3 ans à peine, après un discours retentissant, il est menacé d'exclusion conclusion, mais il s'en sort en obtenant même la tête de l'ancienne chef du parti, Frauke Petri. Il a depuis complètement repris le dessus et fait partie du premier cercle des dirigeants. Et ce sont ses idées qui dominent aujourd'hui au sein de l'AfD, la défense de l'identité allemande, une vision positive de l'histoire du pays. Cessons d'être des moutons et soyons des loups, déclare souvent Höcke dans une rhétorique qu'il puise sans gêne dans le national-socialisme. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Un portrait à retrouver sur notre site franceinter.fr. Et puis en Italie, c'est une élection régionale qui se déroule aussi en Ombrie, au nord de Rome, et elle a valeur de test au niveau national, car c'est la première élection depuis que Matteo Salvini et sa Ligue ont quitté le pouvoir. Un test également pour la nouvelle coalition 5 étoiles Parti démocrate qui se présente pour la première fois à une élection. 350 000 personnes dans les rues de Barcelone hier, les indépendantistes protestaient une nouvelle fois, vous le savez, contre les condamnations de leurs leaders séparatistes. La manifestation qui a dégénéré dans la soirée. Aujourd'hui, Juliette Jay, ce sont leurs adversaires, les anti-indépendantistes, qui défilent 80 000 personnes, selon la police barcelonaise, dans le centre-ville.
Des milliers de drapeaux espagnols flottent aujourd'hui sur l'avenue luxueuse du Passeig de Gràcia, théâtre des manifestations en Catalogne depuis 15 jours. Aujourd'hui, c'est l'association Société Civile Catalane, la principale organisation qui convoque les manifestations contre l'indépendance, qui a appelé à se mobiliser. Mais c'est avant tout une mobilisation politique, puisqu'après d'âpres négociations, elle a obtenu la participation des trois principaux partis constitutionnalistes et anti-indépendance en Catalogne. Il s'agit premièrement du Parti Populaire pour la droite conservatrice, de Ciudadanos pour la droite libérale et du Parti Socialiste Catalan à gauche. Tous leurs chefs de file sont présents ici. Ils sont venus soutenir la sentence du tribunal espagnol et l'emprisonnement des dirigeants catalans, qu'ici on considère comme des délinquants sécessionnistes et non pas comme des prisonniers politiques. A noter que le parti d'extrême droite Vox, qui n'a pas été invité par les organisateurs, a fait savoir qu'il serait tout de même présent. Les dirigeants ont targué qu'ils n'avaient besoin du permis de personne pour se joindre à la mobilisation. Pour l'instant, tout se déroule dans le calme. La mobilisation est Pacifique. Juliette Jay, Barcelone, France Inter.
Angleterre, Afrique du Sud, ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les Springboks ont battu les Gallois ce matin 19-16 après avoir éliminé le 15 de France. Rappelons-le, le Pays de Galles a dû s'incliner à son tour et j'imagine que la déception est grande à Cardiff où vous vous trouvez, Justine Leclerc.
Oui, à la sortie des pubs, les supporters du 15 du Poirot ne veulent pas forcément donner leurs sentiments après cette défaite du Pays de Galles. Les amateurs de rugby gallois sont déçus. Leur équipe échoue pour la troisième fois en demi-finale d'une Coupe du Monde. Colin, supporter d'une soixantaine d'années, résume ainsi cette défaite 19-16 face à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas le bon jour. Il fait pourtant beau aujourd'hui à Cardiff, ciel bleu et soleil. Mais le problème, c'est le résultat. On a mal joué. Un autre fan prend lui moins de passes. De pincettes, on ne méritait pas de battre la France la semaine dernière et donc on mérite encore moins de gagner aujourd'hui, donc pas de regret. Voilà, ce n'est donc pas la fête ce midi dans les rues de Cardiff. Les vendeurs ambulants d'écharpes aux couleurs de cette demi-finale ont vite remballé leurs marchandises. Seule consolation pour les supporters gallois. Ils espèrent maintenant une victoire dans la petite finale face aux All Blacks la semaine prochaine.
Merci Justine Leclerc en direct de Cardiff. Donc la finale, Angleterre, Afrique du Sud, ce sera samedi matin à 10h. Et la petite finale pour la troisième place, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, elle se jouera donc la veille, vendredi matin à 10h également. On prend maintenant la direction du Havre pour la Transat Jacques Vabre. Fabrice Rigobert, vous suivez cet événement pour France Inter. Le départ vient d'être donné, vous nous confirmez ?
Oui, effectivement, et départ sans encombre, tant pour les monocoques de 12 mètres, les classes 40, que pour les bateaux du Vendée Globe, les 29 fameux Imoca avec ces magnifiques bateaux volants, celui d'Alex Thompson, celui de Jérémy Bayou. Ce ne sont pas ces bateaux-là qui ont franchi la ligne en premier, ce sont des bateaux d'ancienne génération, Alexia Barrier, Maxime Sorel, sur des bateaux à dérive droite, donc sans foil, sans ces magnifiques ailes de chaque côté de la coque qui ont franchi cette ligne. Beaucoup de prudence pour ne pas anticiper le départ, pour ne pas franchir cette ligne trop tôt, pour ne pas être pénalisé, ne pas avoir à la repasser. C'est ce qui s'est passé pour tous ces bateaux. Ils ont tous été prudents. Départ magnifique entre ombre et lumière, avec au-dessus du Havre un ciel chargé, un ciel gris, et un petit peu plus loin là-bas en direction d'Étretat, un magnifique ciel bleu avec quelques nuages, des conditions idéales, une vingtaine de kilomètres heure de vent, un vent de nord-est, un vent plutôt de face. On va être au près, on va être obligé de louvoyer, de tirer des bords pour aller jusqu'à Étretat où il y a cette bouée qui va marquer un point de passage obligé pour tous ces bateaux avant de gagner le large, 2 heures de navigation au moins le long de ces magnifiques falaises du Cap de la Hève, d'Antifère, puis d'Étretat, avant de prendre la direction de Cherbourg, puis de Ouessant, et ensuite de l'Atlantique, où il y aura des choix à faire dès la nuit prochaine.
Merci beaucoup Fabrice Rigobert, en direct du Havre, destination donc Salvador de Bahia au Brésil. 7000 kilomètres à parcourir. J'espère qu'ils ont emporté un bon livre. Les 4 finalistes, tiens, transition pour les prix du concours 99. Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, aux éditions L'Olivier. Jean-Luc Ouattalem, La part du fils, aux éditions Stock. Olivier Rollin, Extérieur monde, des éditions Gallimard. Amélie Nothomb, Soif, chez Albin Michel. Le lauréat sera désigné le 4 novembre.